RCF.
Ou bonsoir, selon le moment où vous nous entendez. Les Neveux de René, Chemin de pensée reprend du service en cette rentrée universitaire 2019-2020. Vous êtes en compagnie de Nazim Fattès et j'ai autour de moi trois invités, trois participants à cette émission. Donc à ma gauche, Anne Bonneau. Et à ma droite, Sylvain Contasso-Vivier et notre invité spécial du jour, Nicolas Schnepp. Et comme d'habitude, sans trop tarder, nous allons commencer par la lecture d'un philosophe, du 19e siècle. Et nous donnons la parole à Sylvain.
Merci. Pour l'Allemagne, la critique de la religion est finie en substance. Or, la critique de la religion est la condition première de toute critique. L'existence profane de l'erreur est compromise dès que sa céleste oratio pro aris et focis a été réfutée. L'homme qui, dans la réalité fantastique du ciel où il cherchait un surhomme, n'a trouvé que son propre reflet, ne sera plus tenté de ne trouver que sa propre apparence, le non-homme, là où il cherche et est forcé de chercher sa réalité véritable.
Merci. Alors, ce texte, d'où est-ce qu'il est tiré ?
Eh bien, il est tiré de la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, donc écrit par Karl Marx.
Et pas par Hegel.
Voilà. Parce que c'est une critique.
Voilà. Alors, Anne, tu peux nous dire deux petites choses sur ce texte. Qu'est-ce qu'on ressent à la lecture de ce texte ?
Alors le texte en général.
Oui.
Bon, déjà, il faudrait dire que donc ce texte il a été écrit par le Karl Marx alors qu'il devait avoir environ 26 ans.
Oui.
Donc c'était un tout jeune homme.
Oui.
Il était émigré d'Allemagne où il commençait déjà à être censuré. Il était à l'époque réfugié en France où il commençait à beaucoup fréquenter les milieux ouvriers révolutionnaires et puis gens comme Proudhon, comme Bakounine, etc.
Alors émigré, c'est pas le terme exact.
Il est plutôt
en voyage. Oui. Comment ?
Un réfugié politique, peut-être ?
Oui, voilà. Ce qu'on appellerait de nos jours un réfugié politique.
Oui, une sorte
peut-être.
De réfugié politique.
Voilà. Tout à fait.
Voilà, donc il est déjà, pour situer un petit peu l'ambiance, il est déjà dans une critique vis-à-vis donc, de ce que subit le peuple.
De ce que subit le peuple allemand, tout à fait. Alors ce texte a été publié donc, en février 1844 dans les annales franco-allemandes, donc Deutsche Französische Jahrbücher. Après l'interdiction de la Gazette rhénane, donc il fuit l'Allemagne pour rejoindre Paris en octobre 1843 et avec quelques collaborateurs, il va essayer de réfléchir à la situation et faire une jonction entre, on va dire, les intellectuels, enfin je sais pas, intellectuels c'est pas le bon terme, mais les penseurs allemands et les penseurs français, voilà. Alors c'est évidemment dans ce texte-là que va apparaître la fameuse formule que la religion est l'opium du peuple. On va le lire tout à l'heure, mais déjà sur les deux paragraphes que nous venons de lire, qu'est-ce qu'on peut dire ? En quoi déjà se signale un texte philosophique ? Je ne sais pas, Nicolas, tu veux peut-être dire, est-ce que déjà dans l'introduction du texte, tu y vois quelque chose de philosophique ? L'homme qui, dans la réalité fantastique du ciel où il cherchait un surhomme, n'a trouvé que son propre reflet, ne sera plus tenté de ne trouver que sa propre apparence, le non-homme, là où il cherche, etc. etc.
Eh bien, je pense que oui, parce qu'il y a déjà une interrogation sur qu'est-ce que l'homme, finalement.
Voilà.
Et c'est un positionnement de l'homme par rapport à sa... à la question de la transcendance, finalement, quelque part. Et on a un positionnement par rapport à ce questionnement de l'homme. Qui est-il par rapport à, par rapport à cette réalité que Marx semble dénoncer.
Oui, 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 voilà. Donc on a un questionnement vraiment sur la nature même de l'homme, enfin sur l'essence hein, de l'homme, et il y a l'erreur, le thème de l'erreur, donc de la vérité en creux, l'apparence versus l'être ou la réalité, donc vous voyez, hein, ça se place d'emblée. Pas seulement sur le plan politique, c'est un texte évidemment politique, mais à partir du moment où on questionne l'être de l'homme, on est dans la philosophie, on est pleinement dans la philosophie. Voilà. D'autres choses, vous voulez ajouter d'autres choses ? Non ? Anne ?
Bon, oui, enfin, il y a déjà des phrases importantes, mais qui ne sont pas très faciles à comprendre là sur le tout début du texte.
Oui.
Par exemple, il nous dit « Or, la critique de la religion est finie en substance. »
Oui,
elle est finie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Excellente remarque.
Ça va amener un peu le développement.
Exactement. Donc, pour l'Allemagne, la critique de la religion est finie en substance. Donc, il y a quelque chose qui a été fait.
Oui.
Et il y a quelque chose qui reste à faire.
Voilà.
Et ce qui reste à faire, c'est ce qu'il va le dire.
C'est ce
qu'il va nous dire. Tout à fait, voilà. Bonne remarque, tout à fait. Et on disait, hein, Horatio pro aris et focis, ça veut dire pour nos autels et nos foyers. Donc, il joue aussi avec un vocabulaire traditionnel religieux qui reprend à son compte, ça aussi c'est intéressant. Enfin, bon, Marx a une plume extraordinaire hein, dans ce texte, voilà. Alors, évidemment, on est limité. Alors, peut-être pour nos auditeurs, on va signaler une chose. Hein. Ce texte, on peut le trouver en ligne. Il en existe plusieurs traductions. Toujours hein, au Neveu de René, on parle. Il a été réédité aux éditions Alia, A2LIA, très récemment, en 2018. Voilà. Donc on peut se retrouver pour quelques 6,20 € dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet si on le souhaite. Et puis il y a aussi une version bilingue qui existe, mais qui n'est pas chez Vrin, non, elle est chez Aubier. Et qui date de 71, et ça, faut trouver chez un bouquiniste ou sur Internet.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, peut-être on peut passer quelques paragraphes pour continuer. Anne, tu veux lire la suite ?
Oui. La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes dont la religion est l'auréole.
Bon. Alors aussi, là on voit tout le style de Marx, style virulent, polémique, d'un talentueux polémiste hein, qui porte le combat, on va dire, là où ça fait mal. Alors simplement, on peut dire que l'histoire de la religion, l'opium du peuple, c'est une formule intéressante, mais elle a été déjà utilisée, notamment aussi par des ecclésiastiques eux-mêmes, dans le sens où beaucoup de personnes, qui soient dans le système religieux ou à l'extérieur, ont noté qu'au XIXe siècle, il y a un affaissement du catholicisme en Europe. Il y a quelque chose de cet ordre. Donc, Marx, il vient d'une famille juive et il a été baptisé, comme ça souvent se faisait en Allemagne. Donc, il a reçu un baptême évangélique. Mais bon, tout ça est assez lointain. Mais, en tout cas, il parle d'une misère, religieuse, qui nous dit-il, l'expression d'une misère réelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette misère? Là, de quoi est-ce qu'il s'agit ?
Eh bien, je pense qu'il s'agit d'une misère qui est contemporaine à Marx. Finalement, c'est quelque chose qu'il a pu rencontrer qu'il rencontre dans la société. C'est finalement cette misère dont il parle plus loin dans le texte des classes prolétaires et des personnes qui étaient d'une certaine manière sous le joug du régime tel qu'il était instauré en Allemagne.
Voilà. En fait, on peut parler, si on est un peu plus direct, on peut parler d'une forme presque d'esclavage. Hein. Il faut imaginer ce que c'est qu'être prolétaire au XIXe siècle. L'industrie c'est travailler quasiment sans repos tout le temps. Et à l'époque où Marx écrit, il faut se représenter qu'on travaille étant enfant. Et tous les enfants n'arrivent même pas à l'âge de procréer, hein, à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a même un problème presque de reproduction. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une misère extraordinaire qui dépasse de loin ce qui a pu même exister avant. Voilà. Alors, voilà ce qui fait que Marx va s'insurger. Voilà. Vous voulez ajouter d'autres choses par rapport à ça?
Oui, dans le passage, ce qui est intéressant également, c'est évidemment ce qu'il annonce. Hein. Il dit que finalement, il faut supprimer la religion, ce qui paraît évidemment assez violent au final. Mais en fait, il faut bien voir ce qu'il entend par là. Ce qu'il explique, c'est que la religion, pour lui, est une illusion. Il le dit bien, clairement, là, c'est une illusion d'un espoir de vie meilleure, au final, par rapport justement à ce dont on parlait, hein, l'exploitation. Mais ce qu'il explique, en fait, c'est que si on arrive à une société, justement, où les gens sont accomplis, un véritable bonheur dont il parle, en fait, on n'a plus besoin de religion. Donc, en fait, cette religion, elle, quelque part, elle empêche l'humanité d'avancer, dans ce qu'il explique, parce que justement, elle maintient l'homme dans une illusion d'un meilleur, mais qui est toujours à venir, qui n'est jamais présent. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arriver à faire le meilleur, le bon, maintenant, quoi, dans le présent.
Alors, il dit effectivement qu'il faut renoncer à la religion, mais il dit aussi qu'il faut renoncer à la situation qui a besoin d'illusion, puisque la religion, elle était aussi consolation, et elle permettait plus ou moins à l'homme d'accepter son joug. Donc, il veut qu'on renonce à la religion, mais en même temps qu'on renonce aussi à ce qui faisait que l'homme était sous le joug. Donc, ça, c'est.
Et donc, voilà. Et donc, il va se placer dans une vue où. C'est ça aussi dont il va discuter. Il va essayer de retourner la vue de Hegel, hein, c'est ça. Alors, Hegel, on ne l'a pas étudié, mais déjà, puisque le texte s'appelle « Contribution à la critique du droit de la philosophie de Hegel », on peut dire que Hegel, dans une certaine façon, dans une certaine droite ligne d'une tradition métaphysique, dit qu'il y a quelque chose qui s'accomplit.
Oui,
et ce qu'il laisse accompli, il l'appelle « idée » avec un grand « i ». Alors là aussi, il faut savoir ce que ça veut dire, mais c'est « idée » au sens où il va reprendre un terme platonicien. Et il dit justement que l'état, c'est la forme d'accomplissement d'un projet qui dépasse l'homme. Quoi. Et je crois que justement, on commence à voir que Marx est hegelien et il s'oppose à l'hegelianisme et il s'oppose à la religion chrétienne, mais tout en étant dans les mêmes termes, hein, n'est-ce pas Nicolas? C'est un petit peu ce qu'on avait dit dans nos discussions.
Tout à fait, et là le passage qu'on vient de lire m'y fait encore une fois beaucoup penser, parce qu'on est presque dans le thème de la parousie, dans cette idée qu'il faut accomplir un monde meilleur dès ici-bas, finalement. C'est ça.
Le terme de parousie est bon. Et, donc, ousia, c'est la mise en présence de quelque chose qui était caché. Alors, c'est ça. Et donc, parousie, oui, parousie, le terme est très très bon. Je ne m'y attendais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre. Et donc, mais c'est une parousie éminemment terrestre. On peut aussi réfléchir, là aussi, on y reviendra peut-être si on a le temps pendant l'émission, mais dans cette volonté de libérer l'homme de ses chaînes, le terme émancipation va apparaître beaucoup dans le texte. Est-ce que, la question que je vous pose à tous, c'est est-ce que Marx ne méconnaît pas un aspect de l'homme, cet aspect religieux? Par exemple, Auguste Comte, après avoir travaillé justement la question sociale, a pris conscience qu'un être humain sans religion était quelque chose de bizarre et il a fondé la religion de l'humanité. Sans transcendance céleste, mais il y avait quand même une religion de l'humanité. Alors, Marx nous dit qu'il va s'en passer. Est-ce qu'il n'est pas en train de méconnaître finalement, la nature de l'homme, quelque part? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que les points de vue vont être différents. Anne, tu veux peut-être commencer ?
Oui, non, je ne sais pas. Je suis très ennuyée pour répondre à cette question je ne sais pas si chaque homme a besoin de religion. Mmh. Je sais que certains en ont besoin, je ne sais pas. Mmh. Je sais que tous les peuples de la Terre, dans tous les temps, ont toujours, en revanche, effectivement, eu des religions. Donc, ça, apparemment, c'est quelque chose de très fort lié à beaucoup d'hommes. Mmh. Mais je pense aussi qu'il pensait qu'il allait faire quelque chose d'autre et que cette autre chose qu'il allait venir allait permettre aux hommes de vivre sans religion.
Je pense qu'il est peut-être pas si loin justement que ça d'Auguste Comte, hein, parce que Auguste Comte finalement ce qu'il dit c'est ça, c'est de remplacer un petit peu la divinité par l'homme lui-même. De mettre la transcendance, l'homme devient l'objet de la transcendance en fait, en essayant de s'accomplir au mieux qu'il peut. Hein. Et quelque part, Marx, je pense qu'il n'est pas très loin de ça. Bon, après, effectivement, ce qu'il y a de moins chez lui, ou ce qu'il ne développe pas en tout cas dans ce texte-là, c'est effectivement le côté religieux de la chose, c'est-à-dire tout ce qui va être rituel par exemple. La relation en fait à cette transcendance.
Alors justement, peut-être on peut lire le passage, page 9 du texte chez Alia, où il est question de l'histoire, parce que justement, il faut quelque chose qui transcende. C'est-à-dire, évidemment, sans transcendance, on est juste dans, on n'est pas dans la philosophie, on est dans le rapport de force. Donc, Karl Marx aurait pu écrire un texte d'un pur rapport de force, mais justement, il va montrer que au-dessus des rapports de force sociaux, politiques, économiques, qui l'intéressent, hein, on ne dit pas qu'il intéresse, mais il y a quelque chose. Alors, Sylvain.
Donc, l'histoire a donc la mission, une fois que la vie future de la vérité s'est évanouie, d'établir la vérité de la vie présente. Elle est la première tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire, consiste, une fois démasquée l'image sainte que représentait la renonciation de l'homme à lui-même, à démasquer cette renonciation sous ses formes profanes. La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique.
Il y a un tournant là, il y a un tournant. Alors je vous propose qu'on prenne quelques petites secondes de pause et on reprendra avec les neveux de René.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors nous étions avec Telemann, Et Dominabitur. On était avec le rôle que Marx assigne à l'histoire. Il nous dit, l'histoire a donc la mission, une fois que la vie future de la vérité s'est évanouie, d'établir la vérité de la vie présente.
Exactement.
Alors, comment interpréter cette phrase-là ?
Oui, il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Oui. Hein, parce que déjà, on a remarqué que la vie future de la vérité nous semblait être une allusion directe à Platon.
À Platon,
donc,
oui.
Selon lequel, la vérité n'est pas de ce monde, hein, elle est dans l'autre monde. Et lui, il veut vraiment que la vérité, elle soit ici, dans cette vie-là, hein, comme avait dit Sylvain tout à l'heure. Mmh. Et ensuite, il y a le rôle de l'histoire et de la philosophie. Donc, c'est très, très riche.
Oui, tout à fait. Nicolas ?
Oui, c'est. Je m'étonnais justement bah, que, de cette mission que Marx assigne à la philosophie, finalement, enfin à l'histoire. C'est ça qui est quand même très étonnant, c'est que chez Marx, l'histoire est investie d'une mission d'achèvement, de parachèvement du monde, finalement.
Complètement, complètement. Donc, on voit bien qu'il se situe dans la tradition métaphysique. Hein. Oui. Et puis voilà,
il y a une finalité.
Ouais. Donc, souvent, on a lu Marx, et je pense que les marxistes ont beaucoup lu Marx, sous le mode uniquement du rapport de force. Bon, on va voir plus tard dans ce texte qu'on peut le dire tout de suite, hein, on peut spoiler, qu'évidemment ce qui va jouer ce rôle, c'est la classe qui est le prolétariat. Hein. C'est au prolétariat qui revient d'accomplir, parce que les autres classes, elles sont en dessous de l'histoire, donc elles ne vont pas y arriver. voilà,
c'est ce qui font des mauvaises hypothèses. Hein. Il explique le problème de
Elles sont à côté de la plaque, donc c'est le prolétariat qui va devoir endosser. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a cette idée d'accomplissement de quelque chose. Donc Marx nous dit, moi, je sais quelle va être la destination de l'être humain, et c'est l'histoire qui va l'accomplir, cette destination.
Mais il aura besoin des philosophes quand même pour faire la critique du passé quand même,
Alors, c'est la tâche de la philosophie, elle est d'être au service de l'histoire, de faire avancer l'histoire justement, qui est le but ultime.
C'est ça, oui, c'est quand même un rôle bizarre par rapport à l'histoire, c'est assez étrange. Parce que, par exemple, avant, on a parlé de la philosophie comme servante de la théologie. Et comme tu le dis, Sylvain, là, c'est la philosophie au service de l'histoire.
Moi aussi, j'avais pensé à ça.
Tu as pensé à ça, Nicolas. Oui. Et moi, je dirais même qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la philosophie au service de la science ou de la technoscience, comme dirait Jean-Marc Lévy-Lemonce. Enfin, une petite anecdote, pas plus tard que hier, on l'a vu, Sylvain et moi étions un exposé au laboratoire où il a été question d'ontologie formelle. Et on voyait bien que la personne disait mais non, mais la philosophie c'est très bien, vous voyez, elle aide les informaticiens à clarifier leurs idées.
Ça va pas te plaire, ça.
Le rôle utilitaire de la philosophie ne va pas te plaire.
Mais
sûrement pas, mais bien sûr que non. Pour moi, justement, la philosophie est en amont de toute utilité, évidemment.
C'est de l'exploitation aussi, hein, quelque part.
Voilà. Donc, alors essayons d'avancer dans le texte.
Pour clore la petite parenthèse, quand même, Socrate. Estimer que la philosophie permettait de pouvoir justement se diriger vers une vie bonne.
Il y a quand même cette
notion-là. Hein.
Une vie bonne, mais dans un sens justement pas bassement utilitaire.
Pas pratiquement utilitaire. Oui, je vois.
Au service de la pensée, la vie bonne, elle est au service de la philosophie. Peut-être s'y retrouve.
Exactement.
C'est bonne pour l'âme.
C'est-à-dire, y compris s'il faut mourir, la vie bonne peut passer par le fait de se sacrifier, comme il en donne l'exemple lui-même.
Exactement.
Très très bonne remarque.
Oui, c'est une vision éthique finalement de la philosophie.
Voilà. Et il n'y a pas de philosophie sans éthique et il n'y a pas d'éthique sans philosophie. On le voit à l'époque. Alors que maintenant, on a fait un sujet
séparé
quasiment. Voilà.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, moi, je voudrais qu'on avance dans ce texte. Et même s'il y a énormément de choses à dire, on a vu le rapport avec Platon, avec cette tradition que moi j'appelle tradition métaphysique. Il y a l'idée de critique. Hein. Faut pas oublier que, par exemple, Kant, c'est le penseur qui va être critique par excellence, ou critique va... C'est pas détruire, hein. Critiquer, c'est trouver les limites des choses, dans quels horizons elle se situe. Hein, le grand ouvrage de Kant, c'est Critique de la raison pure, mais aussi Critique du jugement pratique, etc. Et donc le mot critique ne va cesser d'arriver dans ce texte, mais je voudrais peut-être qu'on arrive au côté politique. Donc si on prend page 15, il y a une critique de l'Ancien Régime et du régime allemand actuel. Anne, toi, ça t'avait bien plu, ce passage. Est-ce que tu peux le résumer, simplement, pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore le texte sous les yeux? Alors, il dit que l'ancien régime s'est achevé en France par la tragédie, mais qu'en Allemagne, c'est la comédie qui va l'achever. C'est-à-dire qu'il pense que le régime en place en Allemagne est complètement en deçà, en arrière par rapport à l'histoire.
Oui, alors pour l'Ancien Régime en France, il disait bon, quelque part qu'il avait bon, pr- presque, peut-être que le mot est mal choisi, légitimité, tant qu'il croyait et qu'il devait croire à son droit, et que donc, il est mort finalement, mais il est mort, c'était une erreur personnelle, comme il dit, et donc il est mort tragiquement. Alors que ce qui se passe donc pour l'État allemand, c'est que c'est resté un État féodal là où les autres peuples ont évolué, et la France a évolué, hein. On se souvient aussi que Louis XVIII même, c'est le roi des Français, c'est pas le roi de la France, etc. Et donc, l'Allemagne restait en fait un État féodal, un système féodal. Et donc là, il s'agit plus de tragique, il s'agit de comique, et il dit des choses vraiment très très dures, il dit que c'est un système pourri, et il dit aussi qu'il est en dessous du niveau de l'histoire.
Alors moi, je vais vous lire quelque chose maintenant. Tu me disais que je ne lisais pas, mais je vais lire parce que là, il y a quelque chose. L'ancien régime moderne n'est plus que le comédien d'un ordre social dont les héros réels sont morts. L'histoire ne fait rien à moitié et elle traverse beaucoup de phases quand elle veut conduire à sa dernière demeure une vieille forme sociale. Voilà. Le terme en allemand, c'est « Die Geschichte ist grundlich ». Et François Vezin, mon professeur de philosophie, sur mon exemplaire, là, a écrit un jour qu'on était dans un café « L'histoire fait les choses à fond ». Voilà. Est-ce que vous voulez commenter cette chose-là ?
C'est pas facile, parce que... est-ce que ça a tendance à vouloir dire ? Enfin, moi, ce que j'en comprends, c'est que quelque part, même si un système ne veut pas changer, à un moment donné, c'est l'histoire qui le fait changer, et même s'il faut qu'il y ait des ruptures fortes, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'il veut dire. Oui, l'histoire rattrape les choses.
Donc, Marc, c'est totalement hegelien, vous voyez, oui. Nicolas, une petite dernière remarque de fin. Comment tu vois cette position de Marx par rapport à la religion chrétienne et cette rôle de l'histoire ?
Ce rôle de l'histoire est déjà, je ne l'opposerai pas tout à fait à une certaine vision chrétienne, parce que finalement, on a clairement quelque chose qui est éminemment finaliste, parce que l'histoire, elle converge vers un aboutissement finalement chez Marx. Et cet aboutissement, quelque part, on l'avait vu quand on avait travaillé Leibniz, chez Leibniz, qui était croyant, qui faisait dépendre cet aboutissement de la grâce de Dieu, finalement, chez Marx, ce rôle est attribué à l'histoire, finalement.
Oui, à l'histoire, et la classe qui va la porter, c'est le prolétariat.
Tout à fait.
Voilà. Anne, aussi, petite remarque de conclusion pour finir. Juste peut-être aussi ton sentiment général sur le texte.
Alors, sur le texte, au point de vue forme ou au point de vue...
Oui, forme juste, parce que je crois que c'est un texte qui t'a touché quelque part, oui.
Au point de vue forme, il assène beaucoup comme ça. Il est très vif, il est très mordant, il assène des vérités, il est un peu coup de poing, il aime bien jouer sur des oppositions.
Voilà. C'est quand même, on lit ça avec plaisir, non ? Ou au début, quand même, t'as...
Alors, faut peut-être y revenir.
Voilà,
au début, il est assez difficile.
Et tu disais juste une remarque, ça peut peut-être mener à Pol Pot à un moment si on suit la.
Oui, alors c'était une boutade, mais c'était à propos d'une phrase, parce qu'il disait qu'il fallait éliminer la bourgeoisie.
Voilà,
et j'ai dit que Pol Pot avait bien compris, il avait éliminé toute la bourgeoisie. Il y avait 1 million de morts.
Non, mais bon. Il s'agit évidemment pas de ça.
C'est la bourgeoisie, c'est pas les bourgeois qui
font. Je pense que justement, il faut que les auditeurs lisent le texte pour se rendre compte que la pensée de Marx est bien plus profonde que.
Voilà,
que
ce qu'on a pu en faire les régimes politiques. Voilà. Ouais. Alors, on espère avoir donné à nos auditeurs envie de se plonger dans ce texte. Nous y reviendrons probablement au cours des différentes séances et émissions des neveux de René. Voilà. Je souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des neveux de René.